Le journal Régis Méria.
2 ans de prison, c'est la sentence proclamée par le tribunal criminel à La Chaux-de-Fonds contre le principal accusé de la bande 47. Le verdict est tombé ce matin. Climat, comment a-t-on su? C'est le thème d'une conférence organisée demain soir par l'association Shifters Switzerland Bilbienne dans le cadre de son premier anniversaire. Les exportations horlogères suisses ont encore augmenté en septembre par rapport à la même période l'an dernier. C'est ce qu'indique aujourd'hui la Fédération de l'industrie horlogère suisse dans son rapport mensuel. Météo, beaucoup de nuages et encore quelques averses possibles, mais aussi quelques éclaircies cet après-midi. Niveau température, comptez 16 degrés au mieux. L'affaire de la bande du 47 a connu son dénouement ce matin à La Chaux-de-Fonds. Les 7 prévenus, accusés notamment de l'enlèvement d'un jeune biennois, ont écopé de peines allant de 10 mois avec sursis à 2 ans et demi ferme. Olivier Zano, le tribunal s'est montré plus clément que le ministère public.
Oui, Régis, la procureure avait requis en début de semaine une peine de 7 ans de prison contre le principal accusé dans cette affaire qui implique des bandes rivales biennoises et chaudefonnières. Il écope finalement de 2 ans de réclusion. On lui reproche avec 6 autres jeunes prévenus d'avoir agressé en bande un jeune biennois à la gare de Neuchâtel, de l'avoir placé de force dans le coffre d'une voiture jusqu'à La Chaux-de-Fonds. C'était en mars 2021. Là, la victime a dû retirer son pull, sa veste et ses chaussures sous la neige. Elle a été menacée de mort, déplacée dans une cave, puis contrainte de faire une vidéo à l'attention de la bande de Bienne, frappée à nouveau avant d'être relâchée. Des raisons d'agir futiles et gratuites, c'est ce qu'a relevé ce matin le président du tribunal. Alain Ruffner a toutefois rappelé que l'enquête avait été difficile, un dossier énorme et beaucoup de personnes impliquées pour justifier ces peines bien plus légères que celles requises par le ministère public. Il a expliqué avoir dû s'en tenir strictement aux faits démontrés.
Merci Olivier. Notez que les 7 prévenus ont écopé de peines allant de 10 mois avec sursis à 2 ans et demi ferme. On reviendra en détail sur ce jugement dans notre édition de 18h. La Fondation Suisse pour la Protection et l'Aménagement du Paysage s'oppose au réaménagement du quai du Bas à Bienne. Dans un communiqué publié ce matin, la SLFP s'inquiète en particulier pour l'allée d'arbres le long de la Suze et pour le paysage urbain qui marque l'identité de la ville. Pour rappel, ce projet de réaménagement du quai du Bas sur le pont Karl Neuhaus au centre-ville de Bienne met l'accent sur 3 axes principaux. Prioriser la mobilité douce, augmenter les espaces de rencontre et créer des quais verts et des points ombragés. Le peuple devra se prononcer sur le crédit de réalisation du réaménagement au plus tôt en 2024. Connaissez-vous le lien entre la paléoclimatologie et le whisky? C'est l'occasion de le découvrir demain lors d'une conférence de Shifter Switzerland Bilbienne au Carré Noir. Cette association fête son premier anniversaire. En une année, 14 rencontres locales ont permis aux participants d'en savoir plus sur des thèmes liés au climat. Vendredi soir, une conférence nommée « Climat, comment a-t-on su ?» expliquera comment le GIEC a pris de la notoriété au fil des ans. On revient sur les débuts de ce groupe local avec Paul Dupéret, trésorier pour l'association de Shifter Switzerland et co-organisateur de la soirée de vendredi.
Tout a commencé en fait à l'Atomic Café avec mon partenaire Dylan Battistolo. On s'était rencontrés et puis on s'était dit que ce serait une bonne idée de pouvoir dévoiler certains sujets et puis surtout qu'on ait des experts qui viennent et puis qui puissent amener certaines connaissances sur des sujets extrêmement spécifiques et puis pouvoir amener cette notion interdisciplinaire à travers ces rencontres. Et puis c'est ce que nous avons créé. Nous avons commencé à l'Atomic Café, vraiment dans l'arrière du café. On a eu plusieurs conférences qui sont déroulées sur les thèmes de l'aviation, qui sont déroulés sur les thèmes de l'utilisation des matières, etc. Et puis petit à petit, on a eu de plus en plus de membres qui sont venus. Et maintenant, on a un partenariat qui se passe avec le Carré Noir, donc en vieille ville de Bienne. Et c'est là que nous aurons notre conférence de vendredi. Et puis voilà, on a continué nos conférences. Donc une fois par mois, nous avons ces rencontres qui se déroulent avec ces différents thèmes.
Pour la suite, le groupe biennois de Shifters Switzerland souhaite implémenter de plus en plus de projets locaux comme celui de Shift Ta Commune. Il vise à accompagner les autorités dans la décarbonisation, notamment pour élaborer une stratégie énergie et climat. Il ne faut pas tenter de rationaliser une personne atteinte de démence. C'est l'une des pistes qui sera évoquée ce soir à Péry dans le cadre d'une conférence consacrée à ces maladies. Le service d'aide et soins à domicile du Bas-Vallon organise cet événement en collaboration avec Alzheimer Berne. L'objectif est de fournir des outils aux proches aidants. Parmi ces techniques, celle de ne pas tenter de raisonner une personne atteinte de démence. Pourquoi ? La réponse de Valérie De Oliveira, assistante en soins et santé communautaire et l'une des organisatrices de la soirée.
Parce que déjà, ils vont pas comprendre. Il faut savoir que les gens qui ont une démence, tout ce qui est présent, ils vont pas se souvenir. Ils vont pas se souvenir de ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner ou l'activité qu'ils ont fait durant le matin. Mais si vous commencez à parler de leur travail, ils vont même vous présenter des gens avec qui ils ont travaillé. Ils vont vous dire le nom où c'est qu'ils habitaient. Les gens qui ont une démence, ils sont dans leur passé. Donc, si on les ramène à maintenant dans le présent, ils ne vont pas comprendre et ils vont être confrontés à des échecs et ils vont se mettre en colère. Pour eux, ils n'arrivent pas à faire toutes ces déductions du présent. Ils vont se mettre en colère. C'est pour ça que c'est important de les rejoindre là où ils en sont.
Valérie De Oliveira ajoute que l'important pour une personne atteinte de démence est de se sentir avant tout écoutée. La soirée Démence et communication se tient dès 18h à la salle de la paroisse de Péry. Dans les Franches-Montagnes, la revitalisation de la tourbière de la Gruère a pris du retard, mais le gouvernement jurassien veut faire avancer le projet. L'exécutif a récemment répondu à une question écrite posée par Bernard Studer. Le député du centre lui avait demandé de fournir un calendrier actualisé, s'inquiétant d'une importante surcharge de travail à l'Office de l'Environnement. L'élu DAL avait également enjoint le gouvernement à expliquer les mesures qu'il entendait prendre pour rattraper ce retard. Alexandre Rosset nous détaille la réponse de l'exécutif cantonal.
Le gouvernement indique tout d'abord avoir accepté ce printemps de renforcer le domaine nature de l'Office cantonal de l'environnement. Une personne a été engagée pour une durée de 3 ans pour mener à bien les travaux à la Gruère. La Confédération a accepté de financer une partie du poste. Les prestations liées aux études du projet d'exécution et de suivi de chantier seront en revanche externalisées. L'exécutif reconnaît que les ressources humaines ont manqué pour avancer comme prévu dans ce dossier. Plusieurs départs ont d'ailleurs été enregistrés au sein de l'Office de l'environnement, dont celui du porteur de la thématique marais. En ce qui concerne le calendrier, les appels d'offres et le dépôt public devraient intervenir d'ici l'été 2024. Les travaux seront ensuite réalisés par étapes en fonction des conditions météorologiques. Ils devraient s'étaler sur au moins 3 ans.
Le Parlement jurassien a accepté un crédit de plus de 5 millions de francs en février 2022 pour ce projet de revitalisation de la tourbière de la Gruère. Le chantier fait toutefois l'objet d'un large soutien financier de la Confédération et des fondations privées. Les acteurs du domaine horloger gardent le sourire. Les exportations ont encore augmenté en septembre par rapport à la même période l'an dernier, indique aujourd'hui la Fédération de l'industrie horlogère suisse dans son rapport mensuel. Les explications de Séverine Beau.
Les exportations horlogères suisses continuent sur leur lancée et leur progression. Elles ont augmenté de 3,8% par rapport à septembre 2022 et ont atteint un niveau de 2,3 milliards de francs. Toutefois, les marchés ont évolué dans des directions opposées, précise la Fédération de l'industrie horlogère suisse. La Chine et les États-Unis ont vu leurs résultats diminuer, tandis qu'à Hong Kong, il a fait un bond de 24%. Comparable à la tendance observée au mois d'août. Certaines gammes de montres plaisent aussi plus que d'autres. Celles de moins de 200 francs et de plus de 3000 francs affichent respectivement des hausses de 4,3 et 8,2%. En revanche, le segment 500-3000 francs a lui reculé de plus de 10%.
À noter encore que pour les 9 premiers mois de l'année, la croissance est de 8,6%. En Suisse, l'année 2022 a vu une forte baisse des naissances. Après une année de forte natalité en 2021, le nombre de naissances a reculé d'environ 8% pour atteindre 82 371 naissances en 2022. La situation financière ou l'inquiétude au sujet de l'avenir pourrait avoir influencé la planification familiale, selon l'Office fédéral de la statistique. Un aperçu cette semaine des enjeux des élections fédérales dans les grands cantons de Suisse alémanique. Après Zurich et Berne, cap sur l'Argovie, plutôt conservatrice où l'UDC et la droite dominent. L'élection 2023 pourrait faire briller une étoile montante de l'UDC, Benjamin Gitzendammer. Les explications de notre correspondant parlementaire Serge Jubin.
L'UDC et le PLR avaient fait main basse sur les deux sièges argoviens du Conseil des États en 2019. Il devrait en être de même cette année. Le président du PLR national, Thierry Burkhardt, devrait être aisément réélu, ce qui renforcera sa position présidentielle, même si on prédit un résultat en recul pour le PLR suisse. L'autre sénateur argovien devrait être Benjamin Gitzendammer, 41 ans, fils d'Ulrich, qui fut un poids très lourd du Conseil national durant 28 ans, de 1991 à 2019. Benjamin Gitzendammer devrait succéder à Hans-Jürg Knecht, qui tire sa révérence et peut-être se profiler pour de plus hautes fonctions ces prochaines années. On a coutume de dire que l'Argovie est le baromètre politique du pays. Ça avait été partiellement le cas en 2019, car il n'y avait pas eu de vague verte dans ce canton conservateur dominé par l'UDC, le PLR, surtout par l'UDC qui pèse plus de 30% et occupe 6 des 16 sièges argoviens au Conseil national. Poussé par celui qui allait devenir le coprésident du Parti national, Cédric Vermouth, le PS avait un peu progressé il y a 4 ans, mais son troisième siège ne tient qu'à un fil.
Dans l'actualité internationale, la porte de Rafah sera ouverte pour laisser entrer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. L'Égypte et les États-Unis ont annoncé ce matin l'ouverture de ce seul point de passage entre l'Égypte et l'enclave palestinienne. Des centaines de camions d'aide attendent actuellement aux portes de Gaza. Ils ne devraient pas entrer avant demain, selon le président américain. La route doit être réparée après les bombardements israéliens. Et à noter encore que la Russie va contribuer à l'aide apportée aux civils de la bande de Gaza. Moscou a annoncé qu'elle allait livrer 27 tonnes d'aide humanitaire au croissant rouge égyptien, essentiellement du riz, des pâtes, de la farine et du sucre.
RGB, il est 12h25. Régis Meria, il est temps de nous adonner au plaquage dans la bande.
Sport. Les clubs suisses engagés en Ligue des champions de hockey sur glace connaissent leur adversaire pour les huitièmes de finale. Le HC Bienne retrouvera les Suédois de Färjestad. Les deux clubs s'étaient déjà affrontés en septembre sur une défaite 4-1 des Célandais. Genève affrontera les Allemands de Munich et Rapperswil en découdra avec ceux de Mannheim. Match aller les 14 et 15 novembre prochains. Et puis coup dur pour les Swiss Indoors. Le tennisman espagnol Carlos Alcaraz ne sera pas présent à la Halle Saint-Jacques à Bâle. Le tournoi balois qui début de ce samedi, perd son joueur le mieux classé parmi les participants de cette année. Le vainqueur espagnol de Wimbledon souffre d'une inflammation au pied et de problèmes au niveau des muscles fessiers. Conséquence, Stan Wawrinka accède directement au tableau principal. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera le Flash à 13h. Très bonne suite de journée à l'écoute d'RJB.